Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec nous tous. Amen. Le thème de ce dimanche est intitulé « Cultivons une vie intérieure profonde pour tenir debout ». Cultivons une vie intérieure profonde pour tenir debout. Nous sommes dans une série de prédications qui nous invitent à faire la retraite spirituelle, la retraite personnelle, à nous retirer pour entrer dans la présence de Dieu. Et pour nous, c'est une grâce que d'être la messagère de ce jour pour exploiter ces textes que nous venons de lire. Il a été souvent dit, celui qui se met à genoux devant Dieu se tiendra debout devant les hommes. Si vous vous mettez à genoux devant Dieu, vous vous tiendrez debout devant les hommes. Et notre thème est intitulé « Cultivons une vie intérieure profonde pour tenir debout ». En fait, nous vivons des circonstances et des réalités qui nous montrent que nous avons besoin de quelqu'un de plus expérimenté, nous avons besoin de quelqu'un plus supérieur et plus... celui qui a une force aussi au-delà de la nôtre pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions tenir debout devant les circonstances. Et parfois, il nous arrive de ne pas savoir ce que nous allons faire. Il nous arrive de ne pas savoir comment décider devant les circonstances, puisque nous sommes tout simplement superficiels, puisque nous n'avons pas eu le temps avec Dieu. Et pourtant, notre Dieu a le plan merveilleux pour nous faire connaître ce qu'il a déjà caché, ce qu'il a caché sur notre vie, sur notre avenir. Il l'a déjà réservé quelque part. Et la Bible nous dit dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi et je ferai quoi ? Je te répondrai, je te ferai voir, je te ferai connaître des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Il y a des choses qui sont cachées, mais qui sont réservées pour nous. Et ces choses-là, nous devons les découvrir. Nous allons les découvrir quand nous entrons dans une intimité avec Dieu, quand nous sommes dans la profondeur de notre prière et dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Alors, je voudrais tout simplement à ce début-là demander, est-ce que vous connaissez ce qui se passe? Ou bien est-ce que vous avez déjà découvert ce que Dieu a réservé pour votre vie quelque part? Est-ce que vous le connaissez déjà? Est-ce que vous connaissez, vous avez découvert, Dieu vous a déjà montré ce qui peut vous arriver ou bien ce qui va vous arriver? Dieu vous a-t-il déjà donné une petite partie de ces grandes choses que tu ne connais pas sur ta vie, sur ta famille, sur ton église ou bien pour même notre pays? Est-ce que nous avons déjà fait cette expérience pour découvrir ce que Dieu a de caché pour ce pays, pour notre Église? Nous avons donc intérêt d'entrer dans la prière, dans la présence de Dieu, pour être, pour découvrir des grandes choses qui sont cachées, mais que Dieu a réservées pour les gens qui vont l'évoquer, pour les gens qui vont entrer dans la profondeur avec lui. Et Dieu nous invite ce matin à faire la prière. Mais c'est lui qui donne le règle des jeux. C'est lui qui nous oriente pour que nous puissions prier, pas comme n'importe qui. Quand nous venons devant lui, quand nous venons communiquer avec notre Dieu, nous devons avoir une mode de vie, un style que Dieu nous donne. Ce n'est pas un style bizarre et c'est ce que nous avons lu dans ces passages. Alors, dans cette prédication, nous allons poser seulement deux questions et nous allons y répondre. Ces deux questions sont, quelles sont les directives que Jésus donne pour la prière et pour le jeûne? Quelles sont les directives, quelles sont les règles de jeu que Jésus donne pour la prière et pour le jeûne quand nous entrons en retraite, quand nous voulons être en contact avec notre Dieu? La deuxième question, pourquoi Dieu qui est notre Père, nous demande de prier de cette manière-là? Pourquoi il veut que nous puissions prier de cette manière? Alors, nous allons voir pour la première question, qu'est-ce que Jésus veut? Quelles sont les directives, quelles sont les orientations qu'il nous donne quand nous entrons en prière, quand nous sommes en relation avec Dieu? Nous lisons au verset 5 de Matthieu 6. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans des synagogues et les carrefours afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Ici, la première chose, Jésus voudrait que nous ne puissions pas prier pour être vus, que nous ne puissions pas prier comme des hypocrites, puisque pour les pharisiens, il était les heures d'abord des prières étaient fixées, mais ces heures-là encore, il fallait se mettre là où tout le monde pourrait te voir. Et les gens qui faisaient ces prières régulièrement pendant ces heures-là fixes, ils se disaient, c'est grâce à ces prières-là qu'ils sont saints. Et il faut que tout le monde sache qu'ils sont vraiment en bonne relation avec Dieu. Et Jésus refuse ce genre d'exposition. Il dit, quand vous priez, ne vous mettez pas, ne permettez pas que vous soyez vus par les hommes. Ne vous exposez pas aux hommes, puisque vous venez prier votre Dieu. La deuxième chose, c'est au verset 6. Le sixième verset dit, pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans les secrets et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. La deuxième chose est que nous devons prier en secret. Nous devons entrer dans notre fort intérieur. Nous devons prier non pas comme nous faisons public, mais nous devons prier une prière sincère qui est dans la communion avec Dieu. Ici, quand Jésus dit « ne prie pas en public », ce n'est pas qu'il refuse que nous ne devons pas prier en public, puisque lui-même a prié en public. Mais nous ne prions pas pour ce public-là, pour que nous soyons vus par ce public, mais pour que nous soyons en communion avec notre Dieu. Et quand Jésus dit de vous retirer, de permettre à ce que vous puissiez entrer dans une profondeur avec Dieu, dans cette rencontre qui n'a pas de bruit, qui vous vous désencombrez de tout ce qui peut vous distraire pour être dans cet entretien, dans cette communion avec Dieu. Cette chambre est retirée, peut-être ta propre chambre, peut-être à l'intérieur. Et ici on a dit Dieu est là et Dieu qui est là dans les secrets, te le rendra. Donc, quand tu entres dans ton intérieur, quand tu entres dans cette chambre intérieure, Dieu est là et te le rendra. Vous allez voir dans la Bible, on ne nous parle pas du moment où Jésus est entré dans la chambre pour prier. Cette indication de dire entrer dans la chambre ou bien verrouiller même ta porte, c'est juste pour nous rappeler que nous devons nous laisser désencombrer. Nous devons laisser toutes les distractions pour aller dans notre rencontre avec Dieu. C'est l'état d'esprit, c'est la disposition personnelle, la disposition de ton cœur pour parler avec ton Dieu, pour communier avec Dieu qui est cette chambre intérieure. Et Dieu qui est là va répondre à ses cris. Alléluia. Jésus lui-même a prié. Et il est monté sur la montagne pour être dans cet état intérieur, pour faire son intimité avec Dieu. Parfois, il montait sur cette montagne le soir et restait là toute la nuit. Parfois, il pourrait revenir, il pourrait y aller tôt le matin, avant que le matin n'arrive. Lui était déjà dans la rencontre avec son Dieu. Donc, nous retirer, c'est juste aller dans notre chambre intérieure. C'est juste notre état d'esprit. Laissez tout ce qui peut nous distraire de côté pour être dans notre relation avec Dieu. J'aime ce cantique qui dit « Je veux monter sur la montagne ». C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde. Et là, nous pouvons louer, là, nous pouvons célébrer Dieu puisqu'il y a la joie. Et celui qui a chanté a dit, même si le chemin est rocailleux, même si les cailloux blessent un peu, je vais monter. Je sais que le Saint-Esprit me guidera et Jésus fera quoi? Me consolera. Donc, nous devons monter sur la montagne pour être dans cette présence avec Dieu. Et comme nous avons dit, nous devons cultiver notre vie intérieure. C'est en cultivant cette vie intérieure profonde que nous nous séparons de tout ce qui est distraction pour entrer dans notre communion avec Dieu. Donc, cette chambre-là, c'est l'état d'esprit. C'est toi qui crée cette occasion pour être seul à seul avec Dieu. Non pas distrait par ceci ou cela, mais être dans la présence de Dieu. Alléluia. La troisième chose que Jésus va dire pour la prière, c'est au verset 7. Quand vous priez, ici on a dit, ne rabâchez pas comme le païen. Ils s'imaginent que c'est à force de parole qu'ils se feront exaucer. Ne rabâchez pas comme le païen. Ne multipliez pas de vaines paroles. En fait, il y a des gens qui prient et qui ont de formules. Ils pensent que par ces formules-là, ils vont amadouer Dieu. Ils vont le persuader pour le manipuler pour qu'il puisse avoir la solution. Non, on ne va pas dans la prière pour commencer à manipuler, pour faire de Dieu un garçon de course. Non, Jésus nous montre que quand nous allons dans la prière, quand nous allons dans notre rencontre avec Dieu, nous devons être humbles. Nous ne devons pas multiplier de vaines paroles. Ceci est vraiment contraire à la constance dans la prière. Vous allez vous souvenir que Jésus lui-même a dit à ses disciples, quand il voulait qu'ils puissent prier sans cesse, il a donné l'exemple de cette femme-là, la femme veuve qui venait chaque fois et régulièrement demander son droit au juge unique. Et ce juge a dit, cette femme va me déranger, va me tracasser. Tout ce que je dois faire, c'est de lui donner son droit pour qu'elle ne vienne plus me déranger. Elle venait le matin encore, elle va revenir pour demander la même chose. Donc c'est différent de la constance, c'est différent de cette prière, c'est différent de la supplication que nous faisons à notre Dieu. Dieu veut que nous puissions être sincères, que nous puissions lui demander sincèrement des choses, non pas multiplier des vaines paroles. Il n'y a pas de formule que nous devons savoir pour être sûr que en priant de cette manière, Dieu va me répondre. Non, il n'y en a pas. Mais quand nous venons devant Dieu, nous pouvons supplier Dieu, nous pouvons revenir autant de fois, mais ce n'est pas à multiplier des paroles vaines. Vous allez vous souvenir que Jésus lui-même a prié de cette façon quand il était à Gethsémané. Il a prié, on nous dit, trois fois, il répétait la même chose. Ça, c'est une prière de supplication. Ça n'a rien à faire avec rabâcher des paroles, rabâcher des mots. Non, ce n'est pas une multiplicité de paroles. Nous pouvons revenir devant Dieu autant de fois que nous voulons avec le même sujet, comme ça nous... C'est lourd sur, ça pèse sur notre cœur, mais ici, ce qu'on défend, c'est le fait de venir avec de formules pour croire que c'est en force de prier de cette façon-là que Dieu va nous écouter. Et donc, nous sommes appelés à être sincères dans nos prières, à être avec Dieu, à lui demander ses serments. Et vous allez voir, quand Jésus va montrer à ses disciples comment prier, le verset 9, que nous n'avons pas lu jusqu'à 15. Jésus est en train de montrer combien nous devons être simples. Nous devons utiliser des mots propres à nous pour nous adresser à notre Dieu, qui est notre Père. Et enfin, c'est cette partie, quand Jésus parle de règles de jeu pour faire la prière, il parle aussi des règles de jeu pour le jeûne. Et c'est là que nous avons lu le verset 16 à 18. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme font les hypocrites. ils prennent une mine de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Et pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est dans les secrets, et ton Père qui est dans les secrets te le rendra. Donc Jésus invite même quelqu'un à se laver, à se parfumer, pour ne pas donner l'air que vraiment je suis sérieux avec Dieu, je ne me lave plus puisque je suis à jeûne, je suis en train de porter des sacs pour que tout le monde connaisse que je suis en train de jeûner. Ce n'est pas ce que Jésus dit ici. Jésus dit que tu dois te laver, que tu dois être propre, que tu dois faire comme tout le jour, mais la seule chose que tu feras, c'est être en secret dans ces jeûnes avec ton Dieu. Il nous appelle à une vie intérieure, non pas une vie qui est extérieure et superficielle. Il nous appelle à être profond dans notre relation avec lui, non pas à être des gens qui sont seulement visibles. Apparemment, on peut voir vraiment, elle est en train de prier ces derniers temps, et là, elle n'a plus la forme puisqu'elle est en train de prier. Ces derniers temps, elle ne se fait plus voir puisqu'elle prie. Non, Dieu nous demande de nous retirer, mais aussi d'être ces gens-là qui sont en communion avec lui, dans une intimité vraiment profonde avec Dieu, non pas avec les hommes. Il n'y a rien que nous allons montrer aux hommes, puisque les hommes, si nous montrons aux hommes, alors pour Dieu, nous n'avons plus de récompense. Nous n'allons rien recevoir. Même en priant, quand nous prions en public, nous devons savoir que nous nous adressons à Dieu. Et pourquoi Dieu demande que nous puissions prier donc de cette manière, que nous puissions prier en secret, que nous puissions être, que ce soit notre secret avec lui quand nous prions. Le verset 8 va nous répondre et ça nous pose directement beaucoup de questions dans nos têtes. Le verset 8 nous dit, « Ne leur ressemble donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne lui les demandiez. » Alors, ce que je suis en train de vouloir dire ici, et ce qui nous pose souvent question, c'est de savoir si Dieu connaît ce que nous allons lui demander, alors pourquoi le prier? Ici, on a dit « votre Père ». Et là, on doit rester à ces mots « Père » pour comprendre ce que dit vraiment cette partie. « Votre Père sait que vous avez besoin de ceci. Votre Père connaît bien votre besoin. Mais ce Dieu-là, c'est celui qui vous demande de prier. » Et nous nous posons la question « Pourquoi ? Pourquoi prier quand tu connais ?» Pourquoi nous tracasser et avoir de moments d'intimité avec toi? Jésus lui-même l'a fait alors qu'il était venu sur la terre connaissant sa mission, mais il avait toujours du temps avec son Père. Alléluia! Jésus a trouvé la force et il pouvait vaincre. Même Jésus a dit à ses disciples, priez pour que vous ne tombiez pas. Dans quoi? Dans les tentations. La prière nous donne la force. La prière nous apprend et nous montre comment nous pouvons faire face devant les défis que nous menons chaque jour. La prière est ce qui nous amène à être toujours dépendants de Dieu. Et comme je l'ai dit tantôt, la vie présente des réalités qui nous poussent toujours à avoir besoin de quelqu'un qui est plus expérimenté que nous. Et nous savons que Dieu est notre Père. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est capable. Dieu est au-dessus de tout. Tout ce qui nous fait mal, tout ce que nous échoue, tout ce dont nous avons besoin, il est capable de nous répondre. Il a tout cela entre ses mains. Il les a déjà réservés pour nous. Mais si nous ne les demandons pas, nous n'allons pas jouir. Alléluia. As-tu demandé quelque chose à Dieu? Et Jésus va dire, vous n'avez pas, puisque vous n'avez pas... Vous n'avez pas demandé. Nous n'avons pas de choses puisque nous ne les demandons pas. Mais si nous demandons vraiment, nous aurons ce dont nous avons besoin. Et ici, je vais vous donner une petite histoire seulement que vous connaissez bien de cet enfant prodige qui est parti et il a dilapidé le bien de son père. Mais quand il est revenu et qu'il a reconnu sa faute, il a demandé pardon. Mais son frère qui était au champ, il est revenu et voit que chez lui, il y avait la danse, il y avait la fête. Tout le monde était en fête. Et il s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe ici? On lui a dit, ton frère là, il est revenu et ton père a voulu que nous puissions faire la fête, a organisé ce festin pour accueillir ton frère. Et il était en colère. La Bible nous dit qu'il était en colère. Et il ne voulait même pas entrer pour fêter avec ceux qui étaient là et avec son père. Mais je voudrais que vous puissiez voir en Luc 15 ce qui se passe ici. Au verset 22, le père lui dit, en fait, le verset 29 nous montre ce qu'il a dit à son père. « Voilà ta donnée que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quant au fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir, avec des filles, tu as tué le veau gras pour lui. » Alors le père lui dit, j'aime cette parole du père. Mon enfant, toi tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est comment? Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce que j'ai t'appartient. Aujourd'hui, c'est seulement une petite fête pour ton frère qui est revenu, mais tout ce que j'ai t'appartient. Pourtant, ses fils étaient mécontents de voir que son père ne lui avait jamais donné même la petite chèvre pour qu'il puisse festoyer avec ses amis. Le problème est que ses fils n'a rien demandé. Il n'a pas désobéi à son père. Il était toujours là travaillant avec son père et son père peut-être l'aimait tellement. Mais avec ses pères ici, quand l'autre qui est revenu et qui a reconnu sa faute, il est revenu comme il est dit ici, c'est comme quelqu'un qui était mort et qui est revenu à la vie. Vraiment, je dois festoyer. Je dois me réjouir de voir encore, de revoir encore mon fils. Et toi, tu devrais faire le même. Mais il était mécontent, il était en colère puisque le père ne lui avait jamais donné quelque chose pour festoyer avec son fils. Et le père va lui donner une réponse. Tout ce que j'ai t'appartient, mon fils. Alléluia. Tout ce que Dieu a nous appartient. Nous savons que le Dieu que nous croyons, c'est notre père. C'est ça ce qui est dit. Votre père qui voit dans les secrets vous le rendra. Votre père connaît ce dont vous avez besoin. Mais est-ce que vous lui demandez ce dont vous avez besoin? Est-ce que vous lui dites, est-ce que vous lui parlez? Et ça risque de vous mettre en colère. Ça risque de vous laisser des enfants, en fait, jaloux, avec la haine. Et vous dites que pour moi, Dieu ne répond pas, Dieu ne me donne pas. Pourtant, il voit mon problème. Pourtant, il connaît mon problème. Il connaît bien ton problème. Mais il veut que tu puisses lui demander. Pour qu'il te révèle des choses. Il veut que tu puisses avoir le temps avec lui. Alléluia. J'ai mon petit frère qui a souvent l'amertume vraiment du fond de son cœur, qui ne sait rien demander à son père. Et il dit, mais papa a vu que je n'ai plus de chemise. Je suis toujours là avec lui. Il voit que mes souliers sont déjà à l'ambeau, mais comment? Hein? Et il a l'argent, je sais. Mais il devient tellement orgueilleux, il ne sait pas demander. Et il va tout perdre, il va tout manquer, alors que son père est capable de tout lui donner. Donc si nous n'avons pas ce temps d'intimité avec Dieu, si nous ne demandons rien à Dieu, nous n'aurons rien. Alors que tout est réservé pour nous. Il a déjà donné son Fils. Qu'est-ce qu'il nous refuserait? Il nous a déjà donné tout ce qui était vraiment au-dessus de tout ce qu'il pouvait donner. C'était son Fils unique. Quelle autre chose il peut te refuser? Tu dois entrer en profondeur avec ce Dieu. Tu dois entrer en retraite pour savoir ce que Dieu t'a réservé. Et c'est à cela que je voudrais inviter chacun de nous. Ne soyons pas comme ces grands frères, ces frères aînés qui étaient avec le Père et dont tout était à sa disposition, mais ils n'avaient jamais joui de ce qu'il avait. Ils n'avaient jamais joui. Il a tout, il y a beaucoup de choses que Dieu a réservées pour ta vie que tu n'as jamais goûtées, puisque tout simplement tu n'as pas le temps avec Dieu. Puisque tout simplement tu ne lui demandes pas. Nous devons être ces gens-là qui demandent à Dieu. Ce n'est pas à dire que puisque vous avez demandé, on va vous répondre comme vous le passiez, bien sûr. Il y a beaucoup de réponses que Dieu nous donne, mais il nous donne aussi la capacité et la joie. C'est là que la joie nous inonde. Malgré les circonstances que nous sommes en train de traverser, la joie nous inonde dans la présence de notre Dieu. Nous pouvons avancer et nous pouvons rester sur cette terre avec toutes les difficultés possibles, mais nous allons faire face à ces difficultés puisque nous avons été dans la présence avec Dieu. Et Dieu nous a montré ce que nous pouvons faire et Dieu nous a redonné encore le goût de vivre. Dieu nous donne encore la force d'avancer avec lui. Je voudrais que tu puisses baisser ta tête dans la prière et dire, Seigneur, je ne veux pas louper. Je ne voudrais pas rater la jouissance que tu as déjà prévue pour moi sur cette terre, dans mon foyer. Je ne voudrais pas rater cela. Je ne voudrais pas rester là et plus tard venir dire, « Oh, si je savais que Dieu, tout ce qu'il avait m'appartenait, tout ce qu'il avait réservé pour moi. » Alors nous allons prier pour que notre temps avec Dieu soit vraiment un temps profond. Les heures des qualités que nous passons avec notre Dieu, où nous pouvons nous désaccompagner, laisser les distractions de côté pour être seul à seul avec Dieu et dans la sérieuxité vraiment, non pas dans des distractions. Être à mesure de découvrir ce que Dieu a déjà réservé pour nous. Je voudrais que nous puissions chanter ces cantiques. Je voudrais habiter chez toi. Aller jusqu'à l'extrême limite. Bienvenue chorale et chacun sera en train de prier. Seigneur, révèle-toi. Fais à ce que je puisse découvrir les choses cachées, des grandes choses que tu as réservées pour moi. Dans mon ministère, dans mon travail, sur cette terre, ce que tu as réservé pour moi. Que le temps de retraite que je peux faire, Seigneur, que tu me montres, que tu me fasses découvrir les choses. Je voudrais être dans ces moments-là avec toi.